Et tout de suite, on va le joindre. Olivier Beauregard, bonjour.
Salut!
Comment ça va cette semaine?
Ça va bien, ça va bien. Écoute, je regarde un peu ce qui se passe au niveau de l'actualité. Puis, bon, en termes de COVID, là, c'est malheureux un peu que, bon, certaines régions vont retomber en zone rouge. Il y en a que c'est déjà fait, là, mais on s'attend notamment à ce que l'Outaouais, ça se fasse bientôt aussi. C'est dommage, mais regarde, on n'a pas le choix, on est rendu là. Puis, si on veut se débarrasser du virus, il va falloir que tout le monde embarque dans le bateau.
Mais ça, c'est pas une chose que tout le monde a bien compris,
Non, ça n'a pas
particulièrement
l'air.
les gens qui ont célébré cette victoire du Lightning cette semaine.
Hey, c'est vraiment un bon point que tu apportes. Écoute, bon, Lightning de Tampa Bay qui a gagné la Coupe Stanley, on reviendra un peu au terme du hockey dans quelques instants. Mais d'abord, comme tu as dit, je ne sais pas si vous avez vu les célébrations hier du côté de Tampa, mais tu avais l'impression que la pandémie de la COVID-19, la pandémie mondiale du coronavirus, n'existe tout simplement pas à Tampa Bay, là. Là, c'était le party. Les gars étaient dans des bateaux. On saluait la foule. Il y avait des gens en bateau partout à Tampa Bay parce que la parade s'est faite dans des embarcations nautiques. Et ben, pire que ça, Sébastien, c'est quand on a touché terre, ben, on a permis aux gens de boire dans la Coupe Stanley aussi. On a fait boire
C'est hallucinant.
des parties. Non, mais ça a aucun bon sens. Puis, pourtant, la Ligue nationale a tellement fait attention pendant le tournoi, a tellement fait un bon travail, tu sais, je veux dire, il n'y a eu aucun cas dans les deux bulles pendant tout le tournoi de la Ligue nationale de hockey. Puis dès que les gars sortent de la bulle, ben là, c'est comme si cette pandémie-là n'avait jamais existé. Alors, je regardais les images ce matin, je regardais un peu hier soir aussi, puis je vais être honnête avec toi, j'étais un peu déçu de voir ça, même que j'étais gêné un petit peu parce que je me suis dit, je comprends, là, les joueurs viennent de réaliser quelque chose d'incroyable, quelque chose probablement qu'ils vont réaliser qu'une seule fois dans leur carrière pour la majorité d'entre eux. Mais ça reste que c'est une situation exceptionnelle, c'est une année exceptionnelle, malheureusement. Puis on peut pas commencer à faire ça comme ça. Alex Killorn, qui faisait un discours aujourd'hui, ou hier plutôt, mentionnait, je veux remercier le gouverneur de la Floride d'avoir accès, d'avoir ouvert les bars pour l'arrivée des gars. Mais ouais, tu sais, c'est
C'est
comme si on
ça.
banalisait ça un peu. Alors, reste que ces gars-là ont un message à livrer aux jeunes. C'est pas juste des athlètes, là. Les jeunes les prennent comme exemple, pas juste sur la glace, mais à l'extérieur aussi. Alors, si tu respectes pas les mesures sanitaires mises en place, tu banalises une pandémie qui a fait dans ton pays, parce qu'on parle des États-Unis ici, là, dans ton pays le plus grand nombre de victimes à travers la planète, ben, en quelque part, c'est pratiquement dangereux de faire ça comme ça, là.
Mais là, si on revient au match, à la
Ouais,
victoire en
ouais.
elle-même, là, à part les célébrations qui sont moyennes, disons, pour ce qui est du match, qu'est-ce que tu en as pensé?
Ben, écoute, le Lightning a été le Lightning de Tampa Bay. Écoute, l'an dernier, ça a été une déception totale. Cette équipe-là devait se retrouver en finale de la Coupe Stanley, selon plusieurs analystes, selon plusieurs spécialistes. Là, puis vous ne me voyez pas, mais je fais des guillemets présentement. Et malheureusement, c'est pas arrivé l'an dernier, même qu'ils se sont fait éliminer au premier tour par les Blue Jackets de Columbus. Et cette année, on l'a vu depuis le début du tournoi. C'est une équipe qui était en mission, c'est une équipe qui voulait tout faire pour remporter la Coupe Stanley. On a appris de l'an passé. Et malheureusement, Dallas n'a pas été dans le coup dans ce dernier match-là. Une victoire de 2-0. Puis écoute, c'était une leçon de hockey à plusieurs niveaux. La logique a été respectée. Le Lightning a remporté sa Coupe Stanley. Moi, ce que je salue surtout, par exemple, là-dedans, là, c'est vraiment comment Julien Brisebois a bâti cette organisation-là. Comment on a monté l'équipe, chaque pièce, pièce par pièce, parce que tu peux descendre dans le club école où Benoît Gros est entraîneur-chef, on le connaît bien ici en Outaouais, et lui a préparé les jeunes à la Ligue nationale, des jeunes qui ont un impact direct dans les résultats du Lightning de Tampa Bay en série. Je pense à Braden Point, je pense à Yanni Gourde, un joueur québécois pas repêché, qui est champion maintenant de la Coupe Stanley. Je pense à pas mal de gars qui se sont retrouvés là et qui ont eu un impact. Et ça a passé par Benoît Gros. Après ça a passé par une équipe de dépisteurs qui ont fait un travail extraordinaire. Et ça a passé également par Julien Brisebois qui a été capable de mettre en pièce une équipe, aller chercher les pions manquants pour s'assurer d'avoir une équipe solide qui va être très, très dure à battre. Alors, je lève mon chapeau, puis je trouve que ça a mis le Québec sur la map, encore une fois, dans la Ligue nationale, parce que si tu regardes les gens qui travaillent au sein de cette organisation-là, pas juste les joueurs, là, les membres de l'organisation, Mathieu Darche, qui est adjoint au DG, Julien Brisebois, qui est directeur général, puis même plusieurs recruteurs de l'équipe et des entraîneurs adjoints, ce sont des Québécois, c'est eux qui ont travaillé pour amener cette équipe-là à un championnat, un premier championnat depuis 2004. Alors, non, c'est extraordinaire, je suis vraiment content. Je suis content que la logique a été respectée et ça sera à suivre parce qu'au courant des prochaines saisons, peut-être que le Lightning de Tampa Bay pourrait être encore dangereux et peut-être en mesure de répéter l'exploit.
Donc, on envoie la note de service aux autres équipes. Prenez quelques notes.
Ben oui, absolument. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui devraient faire confiance un peu aux produits du Québec parce que vraisemblablement, ça a fonctionné.
Maintenant, au tennis, au tournoi de Roland-Garros, ben, Eugénie Bouchard, ça va bien de son côté?
Ça va très, très bien. Écoute, Eugénie, c'est une première en 6 ans. Elle atteint le 3e tour à Roland-Garros. Et Eugénie Bouchard, honnêtement, on s'en est parlé régulièrement à travers les années sur, sur nos ondes, Sébastien. Puis, tu sais, des fois, je vous ai partagé mon mécontentement de la façon dont je trouvais qu'elle se comportait. Je trouvais qu'il y avait un manque de sérieux dans son jeu, dans son art de vivre, je vais dire ça comme ça. Et là, on a l'impression qu'elle a gagné une maturité. Puis, tu sais, faut pas s'emballer non plus, là, parce que c'est pas la première fois qu'on dit ça. Mais je regarde son jeu, elle est 168e mondiale et elle s'est imposée hier en 3 manches là, contre Daria Gavrilova. Puis j'ai trouvé, honnêtement, Eugénie Bouchard très convaincante dans son match. Très, très, très convaincante. Écoute, premier set plus difficile. Mais après ça, 6-4 et 6-3, et Bouchard a sorti des coups comme quoi ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu, du grand tennis finalement de Eugénie Bouchard. Alors, ça va être intéressant de voir où ce qu'elle va se rendre à Roland-Garros, mais chose certaine, on recommence à parler d'elle tranquillement, pas vite. On commence à voir que Bouchard est en train de montrer qu'elle a encore le feu sacré, la flamme, puis qu'elle peut encore faire partie de l'élite, parce qu'honnêtement, elle joue comme une joueuse qui a beaucoup à offrir encore. Et ça, c'est intéressant pour le Québec, c'est intéressant pour les fans d'Eugénie Bouchard, tu sais, tous ceux et celles qui avaient embarqué dans la Jenny Army quand à Wimbledon, elle a atteint la finale. C'est le fun de pouvoir revivre ça, c'est le fun de pouvoir se tourner vers elle. Alors, elle va affronter, écoute, je pourrais même pas te donner le nom parce que je l'ai devant moi et je suis pas capable de le prononcer, là. mais c'est la 154e joueuse au monde qu'elle va affronter. Okay. Puis elle est considérée comme une vedette montante du tennis féminin. Écoute, c'est Iga Świątek, je pense que je l'ai, là, c'est une Polonaise. Et comme je vous le mentionnais, on la considère comme une vedette montante du tennis féminin. Elle va l'affronter aujourd'hui. Et elle a remporté son dernier match 6-1 et 6-4. Elle a 19 ans seulement, Sébastien. Alors, c'est une joueuse qu'on risque d'entendre parler énormément. Et c'est pour ça que ça devient intéressant de regarder comment Eugénie Bouchard va s'en sortir dans ce match-là et comment il sera capable de livrer la performance, disons, là, contre cette Polonaise-là. Alors, c'est à suivre. Ça va être disputé. Là. Au moment où on se parle, là, ça va commencer dans quelques instant, là, probablement. Et je te parlais de Roland Garros, je veux juste glisser un mot quand même sur Leila Annie Fernandez, qui atteint également le 3e tour à Roland Garros. Elle est jeune, elle a 18 ans, mais elle aussi, elle commence de plus en plus à faire parler d'elle. Elle devient une des grandes espoirs, disons, au Québec, comme vedette montante de la WTA. Alors, suivez son parcours. Là, elle est au 3e tour à Roland-Garros et j'ai l'impression qu'elle est en bonne position, du moins, pour aller chercher des échelons pas mal importants. Elle a tout un tournoi et, comme je vous le dis, elle n'a que 18 ans. Alors, Leila Annie Fernandez, c'est un nom à retenir, en tout cas pour les années à suivre, ça c'est sûr et certain.
Et là, pour les amateurs de football canadien, là, ça s'enligne? Est-ce que ça s'enligne? Finalement.
Ben, écoutez, cet été, il y a eu beaucoup, beaucoup de confusion par rapport à la Ligue canadienne de football. Moi, j'ai parlé à des joueurs qui étaient frustrés de la façon dont la Ligue gérait le dossier des activités de la Ligue canadienne. On s'en avait parlé, on s'avait laissé là-dessus pour la période estivale. Écoute, on a su à la fin juillet, début août, là, qu'il n'y aurait pas de saison finalement. Ça a pris du temps. Le commissaire Randy Ambrosi là, a perdu énormément de plumes pendant ces semaines-là, ces mois-là, parce que là, il n'y a plus personne qui y fait confiance. Et récemment, j'ai parlé à un joueur, que je vais taire le nom par respect, là, Sébastien, mais j'ai parlé à un joueur tout récemment, justement, de la situation de la Ligue canadienne, comment il entrevoit ça, la saison 2021, si, bon, la pandémie nous le permet, là, ça, ce sera à suivre. Et ce qu'on me disait, c'est que, premièrement, s'il y a une pandémie qui est encore présente puis que ça prend des mesures, est-ce que la Ligue canadienne a un plan? Mais pour l'instant, là, selon les joueurs, la Ligue canadienne n'a aucun plan si on doit s'adapter à la pandémie pour disputer une saison. Ça, déjà là, c'est inquiétant.
Surtout qu'ils ont du temps pour y penser. Là.
Et l'autre... Hey, écoute, Sébastien, là, si t'es pas capable... Si en ce moment, en octobre, t'es pas assis à essayer de prévoir la saison, à essayer de faire tout en ton pouvoir pour que la saison 2021 ait lieu en mai prochain, là, ben t'es pas digne d'être un commissaire de football. Ça, c'est sûr et certain. Et ce que j'allais te dire aussi en terminant, c'est que non seulement la Ligue n'a pas l'air de bouger, mais il y a beaucoup de joueurs, Sébastien, américains, beaucoup de joueurs qui ont décidé, et je te parle pas de petits noms, là, je te parle de noms établis, des gros noms de la Ligue canadienne de football, qui ont décidé qu'eux, c'était terminé la Ligue canadienne de football à cause de la façon dont ça a été géré pendant la crise, mais aussi parce qu'on ne semble pas avoir de plan pour eux. Je vous ferai remarquer qu'il y a beaucoup de joueurs de la Ligue canadienne en ce moment là, qui travaillent dans des mines, qui travaillent dans des... Puis, tu sais, c'est pas des sous-métiers, c'est pas ce que je tente de dire. C'est que c'est des gars qui ont été obligés de se revirer sur un 10
oui.
En l'espace de quelques temps parce qu'ils ont des familles à nourrir. Parce qu'il n'y a pas de garantie dans les contrats de la Ligue canadienne, du moins ce qu'on vient d'apprendre. Alors, c'est malheureux. Et moi, en tout cas, j'ai très, très peur pour l'avenir de la Ligue canadienne. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver avec ça. Et j'ai hâte que Randy Ambrosi sorte de sa cachette.
Bon, peut-être des détails au fil des, je dirais pas prochaine semaine, je vais dire prochain mois peut-être.
Si ouais, ben chanceux. Écoute, ça c'est sage de ta part, mais honnêtement, prochaine semaine, ça serait le fun.
Oui.
Mais t'es mieux de dire au prochain mois, Sébastien, parce que Ambrosi nous a pas habitués à être vraiment de l'avant dans ses démarches.
Ben nous, on va donner rendez-vous par contre la semaine prochaine, Olivier. Merci beaucoup, puis à jeudi prochain.
Absolument, bye-bye.